Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage, l'émission qui en l'espace de 4 mois a quelque peu chamboulé l'ambiance conviviale et guirette, pour ne pas dire je m'en foutiste, qui régnait dans la rédaction d'Europe 1. Open space joyeux où durant leur longue pause café, il n'était pas rare d'entendre les journalistes se taper dans la main en s'exclamant avec un clin d'œil.
Ah, on s'est pas trompé de métier, hein.
Et oui, tout ça est terminé depuis qu'ils sont en compétition. Chaque après-midi désormais, nos journalistes s'affrontent au service de votre érudition. Celui ou celle qui vous aura offert l'info la plus étonnante, l'histoire la plus édifiante, sera élu chroniqueur du jour et pourra se coiffer de cette couronne en plastique Jiffy, symbole tragique de l'asymétrie budgétaire entre le monde du cinéma et celui de la radio. À mes côtés, ma fidèle complice, avec un nom qui claque autant, Eva Rock. Elle aurait pu connaître un destin d'actrice hollywoodienne, finir oscarisée. Elle a fini rédactrice en chef à Télé 7 jours, c'est là que je l'ai récupérée. Ce qui est dommage, car son interprétation de Jeannine Goulard, la charcutière régicide, dans un célèbre podcast d'Europe 1, laissait transparaître un vrai talent de comédienne.
Ah le cochon !
Ah le cochon !
Ah le cochon ! Qu'on lui fasse penser, il a envie de fuir !
Bonjour les Baroques.
Mais c'est pas possible. Mais je t'ai laissé son.
C'était pas mal. Ah, je les ai fait exprès. Je les ai fait sauvegarder au contraire.
D'accord.
Vous êtes notre spécialiste média. Tout à l'heure, c'est vous qui nous ferez gagner un temps précieux devant l'écran d'accueil de Netflix. Mais d'abord, accueillons à bras ouverts une grande actrice française. Eva, pour vous, c'est un peu une référence.
C'est fou, hein. C'est ma sœur jumelle.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, toujours aller dans le sens du malade. Oui, Eva. Bonjour les divines saignées.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors. 8 femmes, Swimming Pool, La Petite Lily, Les Chansons d'Amour, L'Instinct de Mort, Lola et ses frères, la série The Young Pop, j'ai cité là mes préférés, mais la liste est longue. Mercredi prochain, vous serez à l'affiche de La Vérité de Kore-eda Hirokazu. Ma première question est aussi flagorneuse que sincère. Comment vous faites pour être toujours dans les bons coups? Pour ceux qui ne connaissent pas Kore-eda, c'est quand même la Palme d'Or 2018.
Oui.
C'est un énorme cinéaste.
Mmh.
C'est pour ça que vous regardez d'abord ceux qui ont eu les palmes d'or, vous faites les films avec eux, comment vous faites?
Non, pas du tout, Kore-eda, moi ça fait des années que je suis fan de lui, bien avant qu'il ait son premier prix à Cannes, parce qu'il a d'abord eu un prix du jury, il me semble, pour Tel père, tel fils. J'avais vu un de ses premiers films, j'étais fan, et un jour je suis tombée sur lui par hasard sur un tapis rouge. Et je lui ai sauté dessus, j'ai dit que je l'aimais et tout ça. Ça marche pas toujours, mais bon.
Là, ça a marché.
Bah, ça a marché, en fait, c'était long parce que quand je l'ai vu, j'étais juste fan. Et en fait, il est revenu à Paris, il a présenté peut-être 5 films à Paris. Je suis allée le voir à toutes les avant-premières. Et on a lié comme ça connaissance.
Ah, vous avez fait un peu le forcing, on peut le dire.
Non, parce que je pensais jamais qu'il tournerait en français. Moi, je voulais carrément apprendre le japonais pour aller travailler en Japon.
Ah oui.
Et non, j'étais un peu juste fan. Je voulais juste passer un peu de temps avec lui, parce que je trouve que voilà, et puis ça arrive comme ça. Et puis les bons coups, ça arrive sans qu'on les cherche parfois, vous savez, Mathieu.
Je vais réfléchir à cette phrase, ma chère Lydie Sani. On va parler de ce très beau film avec Catherine Deneuve, Ethan Hawke. Alors ça, je l'adore, mais j'arrive jamais à prononcer son nom.
Vous
Ethan
l'avez bien
Hawke,
dit.
C'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
Et Juliette Binoche. Le temps de vous présenter nos deux premiers journalistes en compétition cet après-midi. À ma gauche, Ludivine, on peut parler entre vous de destin croisé. Puisqu'en effet, avant de devenir journaliste économique, Axel de Tarlé aussi ambitionnait d'être acteur. Hélas, pile au moment où vous réussissiez le casting de la comédie musicale 8 femmes, il ratait celui de la comédie musicale 8 hommes.
Comme l'été a besoin de l'hiver, comme d'un rayon laser.
Bonjour Axel de Tarlé. C'est dommage, hein, vous êtes passé à ça d'une belle carrière.
Ah, je me suis pas trompé de métier.
Oui,
en étant pas chanteur.
Alors aujourd'hui, vous attirez notre attention sur un paradoxe. La France est à l'arrêt depuis presque 15 jours et pourtant, le CAC 40, lui, est en pleine forme.
Voilà, j'ai choisi un sujet qui justifiera le fait que je n'ai pas gagné aujourd'hui, parce qu'un sujet sur la bourse et le CAC 40, c'est la gamelle assurée.
Ne vous tirez pas une balle dans le pied, je suis sûr que vous allez nous impressionner.
Allez-y.
À son côté, Ludivine Sagny, avant de le connaître, oui. Je l'avoue, je m'y connaissais assez peu en musique classique. Ce qui fait d'ailleurs que j'étais souvent pris au dépourvu quand une jeune femme que j'avais invitée à dîner me posait des questions trop pointues sur ma musique, sachant que j'avais juste mis la playlist Classic Lover sur Deezer.
Vous aimez Mozart ?
Oh oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Grâce à lui, je peux maintenant mieux faire semblant de m'y connaître. Bonjour Thierry Gécrotin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de la 10e symphonie de Beethoven. Je suis une bille en classique, mais je crois qu'il s'est arrêté à 9, non ?
Il s'est arrêté à 9, et il faut savoir qu'il travaillait à peu près sur 50 symphonies. Mais la 10e, symboliquement, suit la 9e. Il y travaillait, il est mort avant de l'achever. Et l'intelligence artificielle, évidemment, qui met son nez partout, se propose de terminer cette symphonie. Je vous raconterai qu'un humain s'y est collé avant l'intelligence artificielle.
Merci Thierry, voici pour le programme. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Ludivine Seignet, vous êtes donc à l'affiche mercredi prochain du nouveau film de Kore-eda Hirokazu, un film porté également par le duo d'actrices Catherine Deneuve, Juliette Binoche.
Surtout.
Surtout, c'est vrai. Elle est humble en plus. Une question, on n'est pas people du tout dans cette émission, mais là, c'est quand même la, peut-être la plus grande actrice du cinéma français. On a envie de savoir comment va Catherine Deneuve. On sait qu'elle a eu un petit pépin en novembre. Est-ce que vous l'avez eu depuis ? Est-ce que...
Non, mais j'ai eu des nouvelles récentes hier soir et je crois que ça va. Repos total.
Repos
mais
total.
Je crois que ça va.
Alors, le pitch du film, en deux mots, est plutôt simple. Fabienne, Catherine Deneuve, donc, est une icône du cinéma. Sa fille Lumire, Juliette Binoche, scénariste à New York, mariée à un acteur avec qui elle a une fille, revient dans la maison familiale à l'occasion de la publication des mémoires de sa mère. Mais les retrouvailles tournent vite à la confrontation, non-dit, regret, rancune. C'est un film sur la famille, quoi.
Oui, c'est un film sur la famille, sur les vérités aussi qu'on a, la vérité des souvenirs qu'on a, la vérité des souvenirs d'une mère et pas forcément celle de sa fille, etc. Et c'est comment, en fait, alors que cette femme sort son autobiographie, tout d'un coup, sa fille arrive dans sa vie et nous montre que, en fait, bon, la vérité est un peu discutable, quoi. Et c'est aussi une réflexion sur les actrices. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est fin ? Quelle est la vérité des émotions des actrices en général ?
J'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que ce qui est vrai, ce qui est fin, est-ce que vous, beaucoup de rôles vous ressemblent ou au contraire, beaucoup de rôles pour lesquels vous êtes connus et sont très éloignés de ce que vous êtes dans la vie ?
Je ne suis pas habilitée à répondre à cette
Pour Noël, offrez-vous un très beau film. La vérité sort en salle le 25 décembre. Ludivine Seignet est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, zoom sur un paradoxe qui démontre peut-être la déconnexion croissante entre la finance et l'économie réelle. Comment se fait-il que le CAC 40 tutoie les sommets pile pendant que la France est en grève ? Vous allez voir, ma chère Ludivine Seignet, Axel de Tarlet va vous surprendre par la qualité de sa chronique et surtout par son légendaire sens de la chute.
Et c'est quand même un problème pour Emmanuel Macron, parce que s'il finit par reculer... Je ne sais pas comment terminer ma chronique, mais tout ça pour dire que la grève à la SNCF pourrait être longue.
Belle fin.
Belle fin, hein. J'ai le sens de la chute.
A tout de suite, on espère avec... Peut-être que vous avez le temps de rédiger une petite chute.
Mais je suis très fier de ma chute.
Oui,
vous avez
bah,
une couronne pour celle-là ou pas ?
Je n'ai jamais la couronne, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui.
Oh, vous l'avez, ne jouez pas cette corde-là.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Longtemps, l'économie vous paraissait une discipline complexe, opaque. Aussi chiante que l'adagio d'Albignoni en mono non remasterisé. Assommés par leur jargon, vous ne comprenez rien au débat entre experts.
Notre marge de fluctuation s'inscrit dans une harmonisation des flux pondérés.
Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
Et bien grâce à lui, tout s'éclaire. Ludivine Seignet, voici Axel de Tarlet, dauphin d'or 2003 du meilleur journaliste économique. Seul problème, depuis ce prestigieux trophée, il s'est un peu relâché et il prépare ses chroniques avec un chouïa plus de désinvolture.
Ils ont imaginé un couple de deux smicards. Alors deux smicards, ils ont un budget de... Enfin non, attendez, c'est quoi ? Une minute de voiture par rapport au centre-ville, c'est 10 euros de... Enfin 1% du loyer en moins, c'est 10 euros de moins.
Alors Axel, aujourd'hui, nul ne sait si les mots vont sortir de votre bouche dans le bon ordre, mais vous attirez notre attention sur un paradoxe.
Quel
étonnant.
Montage odieux.
Oui, le paradoxe étonnant, c'est que la bourse de Paris est à un record absolu. On a dépassé la barre des 6000 points. Alors que vous le racontez, la France est paralysée en grève. Je parle de la bourse de France, de Paris. Hein, et qu'on viendrait de réviser à la baisse l'économie du pays. Donc, pourquoi autant de déconnexions ? Ben en fait, si vous regardez, quand Gilles indice la bourse de Paris, c'est le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris. Et dans ces 40, on parle du phénomène call. Alors, c'est quoi call ?
Ça
s'écrit K-O-H-L, comme Helmut Kohl. Exactement. Comme Helmut Kohl,
mais
ça n'a rien à voir avec... Mais non, K-O-H-L.
Oui, oui, donc pas comme...
Donc c'est... Et en fait, c'est pour dire que la Bourse de Paris est totalement omnubilée par quatre acteurs que sont Kering, le K de Kohl, L'Oréal, Hermès et Louis Vuitton.
Autant dire des entreprises qui ne font pas leur blé en France.
Enfin, exactement.
Pas essentiellement.
Toutes ces entreprises vendent
et
à 95%.
Ouais.
Ce sont dans le luxe.
Oui, c'est que dans...
Et voilà. Et vendent à 95% hors de France. Donc, si vous voulez, la bonne santé de la Bourse de Paris ne reflète absolument pas le dynamisme de l'économie française, mais est un marqueur de l'appétit de consommation des nouveaux riches en Chine, etc., pour acheter du luxe français. Parce que vous savez, quand on a un peu d'argent, on veut s'asseoir socialement. Et en Chine, bah, le top pour montrer sa réussite sociale, c'est d'avoir un sac Louis Vuitton.
Et ma question, c'est est-ce que justement cette information, elle est réutilisée par les politiques pour apaiser la situation ou elle est... Ou elle n'est pas expliquée. Il n'y a que vous qui l'expliquez sur les médias aujourd'hui ou, alors, ou elle peut être un peu détournée?
Mais vous avez raison.
Alors déjà, je pense que c'est qu'on ne vous a jamais posé une aussi bonne question.
Oui, mais
alors,
c'est vrai que ça va...
maintenant essayer d'y répondre.
Votre question est très bonne parce que j'avais préparé la réponse en plus. Ce qui me permet de briller. Parce que hier, Jean-Jacques Bourdin, sur une radio concurrente, comme on dit... a posé la question à Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette bourse de Paris qui est à plus de 6000 points? Alors, Darmanin était un peu gêné en disant c'est quand même bon pour nous. Mieux vaut avoir des entreprises françaises en forme que pas en forme. LVMH, par exemple, même s'ils vendent à 95% en dehors de France, ils fabriquent en France. Ils ont 17 ateliers en France. Mmh. On ne dit pas usine hein, dans le luxe parce que ça fait... Ça
comment on dit?
On dit atelier.
Ah oui, c'est plus chic.
Voilà, ça fait plus chic. Alors néanmoins, là où on ne profite pas totalement de cette bonne santé des géants français du CAC 40... c'est que nos très belles entreprises françaises, elles sont détenues à moitié par des investisseurs américains, par les, vous savez, les caisses de retraite de Californie, etc. Et donc, c'est vrai que
Il vaut mieux 50% d'un gâteau que pas de gâteau du tout.
Mais oui, ben voilà, vous êtes comme Gérald Darmanin. Hein. Réjouissons-nous de la bonne santé de nos géants du CAC 40.
Je suis comme Gérald Darmanin.
On a dit réjouissons-nous. On a dit ne nous lamentons pas trop.
Voilà,
c'est quand même pas pareil.
Exactement, ne nous lamentons pas trop. Donc, on devrait profiter davantage de cette vitalité de nos entreprises du CAC 40. Quelque part, c'est un plaidoyer pour acheter les actions à la Bourse de Paris. Et donc, c'était ça ma chute qui me faisait rire
tout
à l'heure.
Vous voulez dire pour compléter les retraites ?
Non, je ne veux pas m'entrer dans les choses polémiques. J'allais proposer tout simplement de vous ouvrir un PEA, un plan d'épargne en action, ou un FCPI. Vous voyez, j'ai raté ma carrière. J'aurais dû être conseiller chargé de clientèle à Groupama.
Vous avez déjà la chemise pour ? Voilà, effectivement, vous êtes un bon conseiller clientèle. J'adore, elle est très sobre. Elle est très sobre. C'est apparemment Thierry Géfautin.
C'était ça la chute.
Ouais, la chute raté. J'ai pas le sens de la chute, c'est dramatique. Si vous voulez, je peux chanter.
Non, surtout pas. Merci Axel de Tarlet, merci, on a plus le temps. Votre chronique aura-t-elle intéressé Ludivine Sagnier? Réponse peu avant 18h. Vous, Axel, vous vous êtes trouvé comment?
Moi-même, je me suis convaincu là.
Oh, bah, c'est déjà ça.
Europe 1.
À suivre, quand il a appris que l'intelligence artificielle allait achever la composition de la 10e symphonie de Beethoven, Thierry Géfrotin, puriste intransigeant, a failli avoir une syncope. Alors imaginez quand je vais lui faire découvrir la 5e de Beethoven, interprétée par la fanfare communale de Guadalajara. Non, Thierry. Eva, vous aimez Beethoven?
Je préfère Patrick Fiori, je crois.
Bien, alors je propose un compromis. On écoute Michael Jackson, Wanna Be Starting Something sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage. Or, qu'est-ce que l'équipée sauvage? Il serait, je crois, injuste de réduire cette émission hybride à l'interface du savoir et de l'humour à une simple parenthèse rieuse au cœur d'une actualité souvent trop anxiogène. Définition minimaliste qui nous ferait manquer l'essence même de notre concept novateur, car je sais ce que vous vous dites.
Tu vas la fermer, ta grande gueule !
Ah oui, donc vous avez raison. Allons plutôt droit au but. Aujourd'hui, on reçoit Ludivine Saignée.
Toi, mon amour.
Femme est un film qui m'a profondément marqué, mais je ne m'étends pas là-dessus sous peine d'être encore interrompu par quelqu'un qui me dise de fermer ma gueule. Aujourd'hui, Ludivine, vous nous présentez La Vérité de Kore-eda, qui sera en salle la semaine prochaine, avec Catherine Deneuve dans le rôle principal, on peut le dire. Catherine Deneuve, vous me disiez en antenne, beaucoup plus sympa dans la vie que dans ce film. Il faut l'annoncer aux spectateurs.
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que là, elle joue une actrice qui est quand même un peu dure, quoi, un peu méchante avec son entourage, obsédée par elle-même, par sa carrière, par l'image qu'elle laisse, etc. Alors que dans la vie, c'est quand même quelqu'un de très chaleureux.
Vous avez beaucoup tourné avec elle déjà.
C'était le troisième film avec elle, en 20 ans. C'est pas beaucoup.
Et là, alors, est-ce que vous pouvez... je sais que vous adorez le film Inception. Est-ce que vous pouvez...
Comment vous savez ça?
Parce qu'on travaille sur vous quand même, avant de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez essayer de raconter aux auditeurs quel est votre rôle dans le film de Kore-eda?
Mais je vois pas le rapport avec Inception.
Parce que c'est un film dans un film.
Comprendre.
Vous voyez ce que je veux dire?
La mise en abîme, la...
Voilà, exactement.
Bah, je joue une actrice.
c'est pas très compliqué, je t'avais dit. Je t'avais dit, accroche-toi, ça va, le scénario n'est pas si compliqué que ça.
Non, en fait, dans le film, donc, dans La Vérité, Catherine Deneuve joue une actrice qui est sur un tournage. Elle croise une autre actrice qui est...
Vous voyez
que c'est pas si simple que ça, Ludivine.
Non, c'est pas si simple. Mais pourquoi vous voulez absolument tout résumer, Eva?
Non, c'était pour expliquer quel était votre rôle, pas simplement pour résumer. D'accord.
Je joue une actrice, mais dans un film de science-fiction, dans lequel...
Vous êtes Catherine Deneuve, jeune.
Voilà.
Et bien finalement, c'est assez simple les films.
On s'en est sortis, ouais.
Merci beaucoup. En vous donnant la main, on y est arrivé. Voilà. Alors, dans ce film, il y a aussi Juliette Binoche, qui est épatante. Comme toujours, vous avez joué dans votre filmographie avec toutes les plus grandes actrices. Est-ce que c'est compliqué de jouer avec des stars à ce point-là? Ou est-ce que sur un plateau, c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a justement le personnage de Catherine Deneuve?
On parle un peu des caprices, oui.
Est-ce que ça existe, ça, ou c'est une vue de l'esprit des gens qui ne connaissent pas le milieu du cinéma, d'imaginer que les grandes actrices ont un comportement de diva? Ou est-ce que vous l'avez déjà vu sur des plateaux?
Ben, pas tant que ça. Je pense que s'il y a des divas, c'est plutôt les acteurs.
Ah, c'est vrai ?
Les acteurs sont beaucoup plus chuchotes que les actrices. Les actrices, j'ai pas d'idée de caprice en tête, des trucs fous, quoi.
Alors qu'avec les acteurs, oui ?
Ils peuvent être un tout petit peu plus insécures. Je pense qu'une actrice, elle est insécure le matin avant d'arriver devant le miroir, et puis une fois qu'elle est maquillée, elle fait plus... tout va bien.
Alors, il y a un acteur, j'espère que vous n'allez pas me dire que c'était une diva, parce que c'est mon idole absolue, et vous avez la chance de tourner avec lui, c'est Jean-Pierre Marielle. Lui, il était comment dans la vie, Jean-Pierre Marielle? J'ai jamais eu la chance de le rencontrer.
Bah, à votre avis.
Il était formidable, comme on pouvait l'imaginer.
Comme on pouvait l'imaginer, ouais.
C'était sur La Petite Lily, c'est un de ce film. Et il s'était comporté avec vous comment sur ce film?
Ouais, c'était idéal. On tournait en Bretagne à L'Île aux Moines. Et le matin, avec Julie Depardieu, on venait le chercher en vélo. Et on allait sur le plateau en vélo, on faisait des courses à vélo avec Jean-Pierre. Et puis comme il avait des jambes interminables, c'était toujours lui qui gagnait, quoi. Et puis il partait toujours dans un grand rire et tout ça. Non, c'était un amour. C'était vraiment un privilège de le côtoyer.
On imagine. Elle rayonne plus que jamais dans La Vérité qui sort mercredi prochain. Ludivine Saignée passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, il est extrêmement intimidé, il faut le dire, de rencontrer Ludivine Saignée en vrai aujourd'hui. J'étais à côté de lui à la projection de Swimming Pool à l'époque. Il avait dû être placé sous assistance respiratoire. Thierry Géfrotin tentera de surmonter son stress en évoquant les progrès de l'intelligence artificielle qui serait sur le point de terminer le travail de Beethoven en terminant sa symphonie inachevée, la 10e. Mais d'abord Eva, il est temps de jouer.
Vous aimez Noël, Ludivine?
Ouais.
Oui, ouais.
Ah, je sens que cette haute de Noël démarre bien.
C'est vrai, ça démarre très très bien. Bon, vous le savez, tous les jours et jusqu'au 5 janvier, la haute de Noël est remplie de cadeaux à gagner. Alors, robot cuiseur, multifonction, smartphone, thalasso, voyage. Alors aujourd'hui, vous tentez de gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes sur les 185 km de piste de ski de Rizoul 1850. C'est dans les Alpes du Sud. C'est la station fête d'ailleurs ses 50 ans cette année. Tout est compris, hein, l'appartement en location et les forfaits de ski. Pour jouer, c'est très facile. Vous vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort en appelant le 3921, 50 centimes la minute, ou vous envoyez le mot de passe chance, aujourd'hui c'est chance, par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS. Et puis si vous avez de la chance, vous serez aussi inscrit, allez, d'office comme ça, pour la méga hotte de Noël le 24 décembre, vous pourrez repartir avec un scooter Peugeot et une semaine en thalasso. C'est pas mal, hein.
J'adore quand vous faites la hotte de Noël. Moi je pense que quelques cours du soir à l'Acteur Studio, vous pourrez piquer des rôles à Ludivine.
Oui, bien sûr.
On sent qu'il y a ça chez vous.
Ouais.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, le grand tournoi opposant chaque après-midi les meilleurs journalistes de la station au service de votre culture G. Une émission où le savoir et la gaudriole s'entrechoquent comme jamais, souvent à la grande surprise de nos invités comme le violoniste Renaud Capuçon.
Je suis fasciné et très effrayé en même temps.
Aujourd'hui, c'est la comédienne Ludivine Saignée qui nous accompagne pour la sortie mercredi prochain de La Vérité, un film qui interroge notamment sur le métier d'actrice. Est-ce que, Ludivine, vous finirez comme Catherine Deneuve dans le film? Je précise, dans le film.
Oui.
C'est-à-dire une actrice qui peut dire « j'ai pas été une bonne mère, ni une bonne amie, mais j'ai été une bonne actrice et c'est ça qui compte ». Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une pensée qui peut effleurer soit vous, soit des actrices que vous connaissez?
Les actrices que je connais, je me permettrai pas, mais en tout cas, ça m'étonnerait que je me dise ça.
Vous pourriez, par exemple, ne plus être actrice? Si c'était pour des raisons familiales, pour je ne sais pas, est-ce que vous pourriez décider de plus faire ce métier?
Bien sûr.
Il y a des choses plus importantes, quoi.
Oui, oui. Mais bon, là, ça y est, mes enfants, ils sont éduqués. Maintenant, je peux faire ce que je veux.
Alors, on continue d'évoquer ce film, La Vérité. Mais l'heure est venue d'écouter notre deuxième compétiteur du jour, concurrent d'habitude redoutable, sauf évidemment lorsque, par mégarde, il s'endort à l'antenne. Et comme vous, il est amateur de sieste, Ludivine. Alors, écoutez bien, évidemment, il n'y a pas de montage, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. C'était la semaine dernière et Thierry Géfrotin était en pleine bourre, remonté à bloc. Voici un nouveau compétiteur qui a clairement choisi sa stratégie pour gagner aujourd'hui, la flagornerie, puisque Thierry Géfrotin va nous parler d'une figure qui incarne vos deux passions, Michel Blanc, le cinéma et la musique classique. Thierry ?
Thierry.
Oh, pardon.
Yes ! Bon, alors, Thierry, aujourd'hui, je compte sur vous pour ne pas vous assoupir devant Ludivine Sagnier, qui en plus adore le classique. Alors, c'est votre chance. L'intelligence artificielle au secours de Beethoven. Ça, c'est une accroche.
Ah, ça, c'est une accroche. Oui, on a appris il y a quelques jours que l'entreprise allemande, Axel est à côté de moi, il va apprécier, Deutsche Telekom, avait le projet de confier l'intelligence artificielle le soin de terminer, et on va même dire d'écrire, la 10e symphonie de Beethoven, et le résultat final sera présenté en avril prochain, je dois le dire.
Alors ça, je vous sens circonspect, Thierry.
Si j'étais informaticien, je dirais super, youpi, youpi. Mais comme je suis...
Si vous étiez informaticien moderne, j'ai envie de dire.
Moderne, oui. Mais comme je suis un peu musicien, je réponds joli coup de pub pour Deutsche Telekom, qui veut profiter du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven pour se faire de la pub. Donc musicalement, je suis assez dubitatif. Alors je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que cette ébauche de symphonie, on a des esquisses, hein, des brouillons, rien de définitif, a déjà été utilisée il y a 30 ans par un musicologue anglais qui a lui-même écrit trois mouvements à partir des notes jetées sur le papier par Beethoven. Il s'appelle Barry Cooper. C'est un musicologue, un chef d'orchestre, un vrai compositeur. Hein. Il a identifié plus de 50 fragments pouvant se rattacher à l'élaboration de cette 10e symphonie, ce qui faisait environ 200 mesures. Pour la petite histoire, la 9e, c'est 2000 mesures. Vous voyez, donc on n'a pas grand-chose. Et on n'a pas attendu l'intelligence artificielle. Donc, écoutez ce qu'a fait Barry Cooper.
Donc ça, Thierry, c'est le résultat d'un travail humain.
Humain, oui, très humain.
Comment l'intelligence artificielle va procéder ?
Alors, j'allais dire, c'est simple. Une équipe d'informaticiens, de musicologues va utiliser un logiciel d'apprentissage automatique. Le logiciel va ingurgiter, analyser toutes les œuvres du compositeur, ce qui n'est pas rien. Hein.
C'est terrifiant.
Et oui, c'est terrifiant. Il va ensuite générer, grâce à des algorithmes de traitement de la parole, des tentatives de prolongement de la partition.
Et alors, pourquoi vous êtes si réservé, Thierry, devant ce nouveau projet ?
Alors, Ludivine est sans doute un peu musicienne, parce que je crois que vous aimez Chopin. Hein. Mais même si on est...
J'aime bien Beethoven aussi.
Aussi. Même si vous n'êtes ni mélomane, ni musicien, vous allez comprendre. Imaginons que Beethoven soit mort avant d'écrire la 9e. On va nourrir donc ce logiciel avec les 8 premières symphonies. On va ajouter d'autres œuvres, des concertos, des sonates. Je peux me tromper. Mais je pense que l'intelligence artificielle n'aurait pas accouché de la 9e telle qu'on la connaît.
Non, mais ça aurait peut-être joli.
Oui, sans doute, mais c'est quand même une symphonie assez extraordinaire. Vous imaginez, il y a une symphonie normale, j'allais dire, avec un orchestre symphonique. Et à la fin, il y a quoi ? Il y a des solistes et des chœurs.
Des chœurs
et
oui.
Je pense que l'intelligence artificielle n'aurait pas eu cette audace, même si dans l'œuvre de Beethoven, il y a une fantaisie pour piano, orchestre et chœur. Mais il y a un piano, vous voyez, je pense que l'intelligence, elle n'aurait pas été jusque-là. Parce qu'on n'enlèvera pas à Beethoven le côté humain, le côté un peu... Je ne veux pas dire fou, mais le côté artistique, c'est-à-dire la création, l'inventivité. Voilà, exactement. Mmh. Et je pense que d'une certaine manière, on n'aurait pas eu la 9e. Je peux me tromper, mais je le pense.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'œuvres achevées par l'intelligence artificielle comme ça ?
Oui, il y en a d'autres avec des résultats très mitigés. Le dernier en date, c'était en début d'année. Ce n'est pas si vieux. C'était, j'allais dire, encore un coup de pub. C'était lancé par le géant chinois Huawei. L'idée était de terminer la symphonie dite inachevée de Schubert. On l'a eu en concert, sincèrement. Bon, c'était pas moche, mais c'était très lisse, c'est sans relief.
Eh oui, c'est ça.
Certains ont dit, ah là, on croirait de la musique de film d'Hollywood, ce qui n'est pas très gentil pour la musique de film d'Hollywood d'ailleurs.
Si jamais un jour l'intelligence artificielle franchit un cap en réussissant à intégrer une notion de risque et de créativité plus risquée, parce que là, je pense que le côté fade que vous décrivez, c'est parce que ça reste une intelligence qui essaye de faire exactement ce que Beethoven a fait. Si on induit une dimension un peu plus créative, peut-être que ça donnera quelque chose de fabuleux.
Mais comment on peut se substituer à l'âme d'un génie, je comprends.
C'est ça. Si on prend Mozart, il dit que quand il se promenait dans Vienne, il entendait des gens qui chantaient, tout ça, ça le nourrissait. Bien vous voyez, il y avait d'autres manières. Il ne s'appuyait pas que sur ses œuvres déjà écrites. Mozart, il continuait à vivre. Pour Beethoven, c'est plus compliqué parce que vous savez qu'il était sourd.
Oui, c'est vrai, il y avait ce petit problème.
Mais voilà, je pense que l'idée... Alors, pour en terminer avec, non pas l'intelligence artificielle, mais avec l'humain, on a eu, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, un Français qui s'appelle Pierre-Henri Dutronc et qui a complété le Requiem de Mozart. Vous savez qu'il est inachevé. Et là, je dois vous dire que c'est extrêmement bluffant parce qu'on est dans la musique de Mozart. On se dit, mais bon Dieu, c'est Mozart qui a écrit ça. Écoutez, ce que vous allez entendre là, c'est pas du Mozart, c'est du Dutronc.
Effectivement.
C'est le Sanctus. Je vais le Sanctus dans le Requiem tel que Mozart l'a écrit, il est assez réduit. Lui, il a rajouté des mesures. On y est.
on y est. Thierry Geffretin qui mise plus sur l'humain que sur l'intelligence artificielle. On l'aura compris. Ludivine aussi, on sent que vous êtes plus pour l'humain. Merci Thierry Geffretin. Votre chronique aura-t-elle séduit nos auditeurs? En tout cas, merci de vulgariser ainsi pour nous l'univers parfois intimidant du classique. Un mot peut-être également pour ceux qui hésiteraient à se rendre à l'opéra.
Ce qui est bien, c'est les entractes qui durent. On peut manger des grosses saucisses.
Ah merci. Ça, oui, ça peut motiver les gens. Oui. Goethe disait. Bon, ça c'est juste Roland Giraud dans Papier fait de la résistance. Mais la citation de Goethe est la suivante: l'amour est un jeu à somme nulle. Ce que l'un gagne, l'autre le perd forcément.
Et les affinités électives.
Vous connaissez cette citation?
Bah, j'imagine que c'est ça, ouais.
C'est beau parce que je l'ai inventé. C'est parfait. Oui, à chaque fois que je cite Goethe, j'invente une connerie.
Pas mal, je ne savais pas, mais vous savez que dans les affinités électives, on est complètement là-dedans.
C'est vrai?
Bah oui.
Vous voulez dire que j'aurais pu être une intelligence artificielle qui réécrit du Goethe?
Complètement, j'attends de voir ça.
Peut-être. Alors là, en revanche, tu n'as plus de lien avec ma transition d'après. C'est pas grave. Le quiz arrive avec Eva Roch aujourd'hui, avec vous Ludivine. Évidemment, Eva aura droit à un quiz sur les actrices mythiques. Et quand on sait qu'elle a déjà du mal à se souvenir des hommes...
Comment il s'appelait le mec de l'an dernier? Le mexicain?
Vous imaginez les femmes! En plus, Eva, il n'était pas du tout mexicain. Souvenez-vous de ce que vous avez dit au petit matin quand vous avez retrouvé vos lunettes.
Ah merde, c'était Geffretin!
Exact, coquinette!
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Tonifiez vos neurones sans négliger vos zygomatiques. Voici l'objectif de l'équipe est sauvage. 2 heures d'une joyeuse battle opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 sous l'œil amical mais exigeant d'une invitée vedette. Aujourd'hui, Ludivine Seignet l'affiche mercredi prochain de La Vérité aux côtés de Juliette Binoche, Ethan Hawke et Catherine Deneuve. Pour nos auditeurs, ce sont des noms, des grands noms. Pour vous, ce sont des partenaires de jeu. Peut-être, qui sait, dans la vie, des amis. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis dans le métier, Ludivine Seignet? Parmi les acteurs qu'on voit, qui sont nos idoles, vous êtes pote avec eux?
Oui, j'ai quelques amis, ouais,
c'est vrai,
dans le métier.
Vous pouvez citer quelques noms?
Des amis...
Ceux dont vous êtes le plus proche, en fait, que vous voyez, avec qui vous faites des restos.
J'ai Julie Depardieu,
ouais.
Karine Viard, Vincent Cassel.
Ah oui, ça fait des beaux dîners déjà.
Laurent Lafitte, Marina Foïs.
Ah, ça doit être des dîners, en plus, ouais. On rigole en plus, c'est ça qui est bien.
Ben ça, je peux vous dire que ça vaut tous les one-man shows du monde.
Eh bien moi, le soir, je dîne avec Eva Roch. Et je peux vous dire passe aussi de fort jolis moments. Eva Roch, c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec vous. Or, Jean-Pierre Mariel disait...
Il y a deux races de femmes, les frappées et les sournoises.
C'était avant MeToo, évidemment, qu'il disait ça. Il avait vu juste concernant Eva Roch. Eva, que vous allez à présent affronter, ma chère Ludivine, en combat singulier dans notre quiz. Quiz sur les actrices mythiques, c'est un vrai faux. Chaque bonne réponse vaut un point. Ludivine, Marilyn Monroe est à jamais une actrice iconique. Son mystère, sa beauté, évidemment. D'ailleurs, elle a été élue Miss Cheesecake en 1952. Vrai ou faux?
52, Cheesecake, moi je dirais faux quand même.
C'est votre dernier mot, Ludivine?
Bah oui, puisqu'elle est morte en 62, 10 ans avant, elle était déjà quand même un peu...
Ça se tient, en plus c'est terrible, parce que c'est la mauvaise réponse alors que c'était un bon raisonnement. Il n'a pas été récompensé, c'est vrai. Figurez-vous, c'est un diplomate polonais qui avait organisé l'événement, Marilyn avait 26 ans. Eva Roch aussi a tenté le concours, mais elle fut éliminée à cause de son allergie au fromage. Eva Roch, en 1973...
Vous êtes un stupid boy, oui, combien?
Stupid boy, ça fait un bon nom de film. Oui. Eva Roch, en 1973, oui. Brigitte Bardot tourne Colino trousse chemise. Elle a une scène dans un lit, dénudée avec Francis Huster. Ce dernier a demandé à ce que sa femme soit dans la pièce, hors champ, pour éviter tout dérapage. Vrai ou faux?
Qu'est-ce que c'est le titre du film? J'avais jamais entendu
Moi
ça.
Moi non plus. Colino trousse chemise.
Non, j'ai envie de dire faux. Il y a trop de trucs qui me paraissent un peu bizarres dans l'énoncé.
Alors, vous avez la bonne réponse, c'est faux. En revanche, l'explication est encore pire. Francis Huster a préféré une méthode beaucoup plus radicale pour ne pas déraper avec bébé. Il avait scotché son sexe avec un sparadrap.
Mais non.
Francis Huster a raconté ensuite que ça n'avait pas du tout fonctionné. Sacré Francis. Eva, Ludivine, 1963, la sublime Claudia Cardinale tourne avec le non moins sublime Alain Delon. Juste avant de tourner une scène où les deux jeunes premiers s'embrassent, que dit le réalisateur Visconti à Claudia Cardinale? 1. Je veux voir la langue quand tu embrasses Delon. 2. J'aurais aimé être à la place de Delon. Ou 3. Ce n'était pas prévu, mais le président italien arrive.
Ah, moi, je crois que c'est l'histoire de la langue.
Moi aussi, j'irais la langue. Ouais.
Bien vu, je veux voir la langue.
C'est horrible.
Oui, c'est vrai.
Bon, c'est courant, vous savez.
C'est vrai?
Ah, c'est, bah, oui. C'est une consigne qu'on entend beaucoup.
Ça peut arriver, ouais.
Je sors du quiz, juste un instant pour vous poser la question. sur, non, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec les actrices qui expliquent qu'elles ont été victimes soit de harcèlement, soit de comportements un peu borderline de la part de certains réalisateurs. Vous, est-ce que vous avez déjà vécu ça ou vu ça sur un plateau, des réalisateurs qui vont un peu trop loin dans le côté Pygmalion et qui vous donnent des consignes qui parfois sortent un peu du cadre artistique ?
Non.
Ça vous est jamais arrivé ?
Non. Moi, vous savez, j'ai fait des rendez-vous avec Harvey Weinstein et il m'a jamais demandé de monter dans sa chambre. Donc, je suis pas du tout le bon exemple.
Ah oui, mais c'est intéressant de savoir d'avoir cette version-là aussi.
Oui, 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 mais voilà. La vérité est comment dire, est caduque.
Oui, tout à fait. Ludivine Sani, nous retournons dans le quiz. Je ne sais pas qui mène, mais peut-être que pour la première fois de l'histoire, c'est Eva Rock qui mène.
Oui, mais je sais ce que vous allez faire. Vous allez faire gagner 15 points
Ludivine
à Ludivine Sani, d'un coup. Là.
Sharon Stone, en 92, tourne Basic Instinct. Mais au fait, qu'est devenue la fameuse culotte ? Car c'est le réalisateur Paul Verhoeven qui lui a demandé de la retirer. Sharon lui a offert ou Sharon l'a vendue aux enchères au profit de Heads ?
Oh bah, ça, c'était une soirée de l'âme phare. Elle a dû la revendre.
J'espère.
Vous espérez ?
Oh bah oui, j'espère que c'est ça.
Vous avez tort toutes les deux.
Mais
c'est ce coquinou de Paul Verhoeven qui l'a. Sharon Stone lui a offert juste après la scène. C'est une fois le film projeté que Sharon s'est sentie un peu trahie. Eva Rock,
c'était
attention.
Vraiment avant Me Too. Hein.
Ah, c'était bien, c'était une autre époque. Ouais. En 2001, Cameron Diaz a eu un Burp Award qui a récompensé le meilleur rôle de l'année au cinéma.
Ah non, c'est faux, ça. C'est faux. Horrible.
En même temps, ça m'étonnerait pas. D'elle,
Ah oui.
Elle connaît la dimension potache de Cameron Diaz. C'est vrai. C'était à l'époque de la sortie américaine de Shrek. Cameron Diaz doublait sa fiancée, Fiona.
Et
elle a un vrai savoir-faire. La preuve, le présentateur Jay Leno lui demande une démonstration avec l'aide d'un coca. Voici le résultat.
Ok, I'm gonna try. Okay. It might hurt me more than it hurts you.
Tu mets la réaction du public qui est à la fois content et en même temps choqué un peu. Cameron a déclaré « C'est quelque chose dont je suis très fier. Enfin, mes gaz me servent à quelque chose. » Qui remporte ce quiz, les amis ?
C'est Ludivine.
Non, je pense qu'on est...
C'est Eva Rock qui remporte le quiz. Ludivine vous a offert une victoire,
c'est
Eva.
C'est vrai.
Ça, c'est un grand moment pour vous.
C'est la solidarité féminine. On va dire ça.
On parlait de Cameron Diaz. Vous n'êtes pas qu'une actrice, Ludivine. Vous avez aussi une voix, ça, on sait peu. Mais moi, je l'ai découvert, en fait. Vous êtes Nathalie Portman dans Léon.
Oui. C'est dans ma fonction d'actrice. Hein.
Mais tout à fait. C'est vrai que maintenant, quand j'entends la voix de Nathalie Portman, la version française, c'est vrai que j'entends votre voix, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Vous êtes aussi une des voix.
J'étais enfant.
Mais évidemment. Et vous faites aussi la voix dans Call of Duty, qui est un des jeux les plus vendus au monde.
Ouais.
Et ça se prépare comment parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, pour ceux qui jouent pas aux jeux vidéo,
c'est un blockbuster américain.
Il y a plein de scènes dialoguées. Enfin, il faut, c'est vraiment un travail d'actrice que vous prenez très au sérieux. C'est un enfer. Pourquoi
Parce que j'avais qu'une demi-journée d'enregistrement et en fait, on m'avait dit il y aura quelques phrases en allemand, pas mal d'anglais et un peu de français. Et quand je suis arrivée, il y avait 70% en allemand, 20% d'anglais et 10% de français. Et donc, j'ai quand même des bases en allemand, mais il a fallu vraiment que je rame parce que je faisais une espionne et donc il fallait que mon allemand soit parfait. Donc j'avais un coach sur le plateau, mais c'était difficile. Parce que c'était que des en plus de Deuxième Guerre mondiale, machin, les nazis, etc. C'était pas des trucs rigolos à dire.
Eva ?
Mais vous disiez que c'était dans votre rôle d'actrice de faire du doublage. Toutes les actrices font pas du doublage. Est-ce qu'il faut une qualité particulière pour réaliser ça ou pas ?
Non.
Vous êtes devant un écran, vous interprétez aussi le personnage, vraiment ? Il y a quelque chose de même physique ?
Bien sûr, oui. C'est comme, c'est un peu, grosso modo, comme un karaoké. On a les dialogues qui arrivent à une barre et on doit les prononcer dans le rythme, etc., en regardant et la ligne de dialogue et le visage de l'acteur qu'on interprète.
Ça ressemble à un cauchemar pour moi. Ouais. Merci de nous l'avoir décrit, Ludivine. Je ne ferai jamais de doublage de voix. Elle sera à l'affiche mercredi prochain dans un film magnifique intitulé La Vérité. Ludivine Sagné, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, si je vous dis qu'un bateau va bientôt partir en haute mer pour pêcher de l'eau, vous me direz probablement que je suis un peu con.
Ça pourrait te compter, con. Hein. Oui. T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchouc.
Eh bien non, Gérard. Car même si pour vous, l'intérêt de pêcher de l'eau en vue de la filtrer et de la boire n'est pas évident, ça pourrait tout simplement sauver l'humanité. On vous explique juste après Big Flo et Oli. Promesse sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue, les amis. 2 heures pour égayer votre quotidien. Et pourquoi pas, soyons ambitieux, changer le monde. Oui, Ludivine Sagné pour nous. Sky is the limit, comme disait notre président. Voilà pourquoi nous partons retrouver notre correspondant dans le sud, Benjamin Péter, pour découvrir un navire pas comme les autres, qui va peut-être changer le monde. Bonjour Benjamin Peter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Alors dans quelques jours, un bateau, l'Odip, va quitter le port de Sète pour aller puiser de l'eau de mer au large de l'Espagne et en faire des bouteilles d'eau douce, une première mondiale. Et Benjamin, vous avez pu monter sur ce bateau avant son départ.
Oui, et j'avais un peu l'impression d'être Tintin à bord du Carabou de Jean.
Oh,
mais oui. Alors ici, il n'y a pas de boîte de crabe, mais c'est des bouteilles d'eau. Alors il faut imaginer un gigantesque navire de 200 mètres de long, un ancien ferry construit au milieu des années 80 en Allemagne de l'Est, dont la cale a été transformée en usine. À l'intérieur, le bruit est assourdissant. 24 000 bouteilles en plastique recyclé peuvent en sortir par heure. Alors hier, quand je suis allé les voir, ils faisaient les derniers réglages. C'est Régis Revillot, un marin qui a sillonné les mers du globe. Une sorte de capitaine ad hoc, le whisky en moins, puisqu'ici on fabrique de l'eau douce. Et il a eu cette idée complètement folle.
On va aller pêcher de l'eau dans la fosse des 2000 mètres au large de l'Espagne. Et nous allons pêcher notre eau par 300 mètres de profondeur. Parce qu'à 300 mètres, on est sûr de pratiquement plus avoir de lumière. L'eau est une température constante, aucune bactérie et aucune pollution. C'est l'eau la plus pure de la planète.
Mais alors, la question qu'on se pose, Benjamin, cette eau, est-ce que vous l'avez goûtée ?
Eh oui, j'ai même trinqué avec le capitaine à l'eau deep, donc toujours à l'eau douce. Hein. On m'avait prévenu qu'il y avait un léger goût salé. Franchement, je ne l'ai même pas senti. En fait, ça ressemble à de l'eau minérale classique. C'est presque décevant si on oublie deux secondes qu'on est en train de boire de l'eau de mer, puisée alors dans ce cas-là au large de Porquerolles. Et la performance, c'est aussi qu'elle garde les autres minéraux, 78 en tout, ce qui en fait une eau très riche.
Alors évidemment, la question qu'on se pose, est-ce que ce procédé peut servir aux pays qui manquent d'eau ?
Eh bien, c'est justement l'un des objectifs. Ils ont d'ailleurs créé une fondation en parallèle pour pouvoir donner de l'eau en utilisant ce procédé.
Nous sommes en quelque sorte les Robins des mers. Je vends mon eau, je ne vais pas dire aux riches, mais aux gens qui peuvent la payer, et je redistribue à ma fondation directement aux populations nécessiteuses. L'eau aujourd'hui se fait rare, elle est polluée, elle est généralement captée par des grands trusts. Il faut donner de l'eau, c'est le bien essentiel à la vie.
Et voilà, et à terme, ils espèrent pouvoir équiper un navire comme celui-ci tous les ans pour créer des filières en circuit court en allant à chaque fois puiser de l'eau de mer au large des pays où la production sera écoulée. Et ce navire, l'Odip One, devrait d'ailleurs partir prochainement pour la mer de Chine pour abreuver le marché chinois qui est très demandeur.
Eh bien voilà, une belle initiative, Benjamin Peter, même si évidemment le lot est un liquide qu'Eva Rock connaît assez peu, mais elle va apprendre à le découvrir et elle va s'y intéresser peut-être après ce reportage. Merci beaucoup,
roule,
Benjamin Peter.
Ça roule trop, ça
roule
trop.
Europe 1.
Une deuxième heure de l'équipe et sauvage se profile, la compétition va entrer dans sa phase décisive. Je vous rappelle qu'un seul de nos journalistes sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil de notre invité d'honneur ce soir, Ludivine Sagné. Et je ne vais pas parler pour elle, mais je sens qu'elle passe un fort joli moment en notre compagnie.
Je suis désolée, j'ai pas l'habitude. J'ai jamais passé une heure avec un gros con.
Bah, à tout de suite.
Amour et turbulence.
L'équipe et sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine où Europe 1 était la première radio de France, les journalistes de la rédaction s'entendaient comme larrons en foire, ripaillaient ensemble, gaiement chaque midi et le soir venu dans la mal nommée salle de repos, émanaient des propos, disons à minima, suspects.
Mais que c'est exquis, vraiment, vraiment que c'est bon!
Renouer avec cet âge d'or est l'objectif de l'équipe sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1. De nouveaux concurrents s'apprêtent à nous rejoindre et justement, on va positiver avec le phénomène des sites des bonnes nouvelles, ces sites ou comptes Instagram qui nous permettent de nous sentir mieux dans nos baskets. Et puis à l'occasion de la sortie événement de cette fin d'année, notre expert scientifique nous aidera à décrypter ce qui est plausible et ce qui l'est moins dans la science de Star Wars. Alors je sais pas vous, mais nous ici on part de loin, pas vrai Eva ?
J'avais pas compris qu'il y avait quelqu'un dans Chewbacca.
Ah oui, on part de vraiment très 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 loin.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour booster votre culture G sans non plus vous péter un neurone, pour vous servir une niçoise, un suisse un peu corse et 4 journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Pour les départager, vous et notre invité d'honneur dont la voix compte triple, fatalement il donne tout, il repousse les limites de l'investigation pour vous offrir des faits ou des chiffres frappants comme hier.
4 braseros allumés plein gaz sur une terrasse, c'est l'équivalent d'un trajet en voiture de 350 km.
C'est pas génial comme comparaison. On cherche, c'est ni très étonnant, ni inquiétant. C'est un peu genre rien.
Bon, aujourd'hui on fera mieux. C'est Ludivine Sagné qui nous accompagne pour parler d'un très beau film avec un casting de rêve, Catherine Deneuve, Julie Juliette Binoche, Ethan Hawke et vous, Ludivine, dans La Vérité, qui sort mercredi prochain. On continue d'en parler, ainsi que de vos projets, parce qu'il y a aussi The New Pop, la suite de The Young Pop, qui arrive bientôt. Mais quand est-ce que ça arrive d'ailleurs? J'interromps l'émission pour savoir.
Parce que... C'est le 13 janvier, je crois.
Alors, c'est le 13 sur HBO. Et c'est dans la foulée sur Canal+, en France.
On en parle, juste le temps de vous présenter nos deux derniers concurrents du jour. À ma gauche, le seul mec qui dans tout Europe 1 n'a pas sauté au plafond en apprenant qu'on recevait Ludivine Sagnier aujourd'hui, et pour cause, étant un sex-symbole lui-même, il n'aime pas trop quand un autre sex-symbole s'invite dans ses locaux. Ludivine, je vous présente notre expert high-tech et numérique. Rêve de toutes les femmes, cauchemar de leur mari. Depuis qu'il est entré dans cette rédac, tous les salariés n'ont plus qu'un vœu pour 2020.
S'envoyer en l'air avec Anissem Bida.
Bonjour Anissem Bida.
Bonjour Mathieu, bonjour Ludivine.
Faut
pas écouter tout ce qu'il raconte.
Mais arrêtez surtout de prendre votre voix de miel, essayez d'être soft. Alors, vous êtes déjà notre rayon de soleil en temps normal, mais particulièrement aujourd'hui, Anissi.
Oui, je vais essayer d'apporter un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Calmez-vous. On accuse souvent les médias d'être anxiogènes, d'être toxiques. Eh bien, je veux parler de ces médias qui prennent le contre-pied de cette tendance et qui justement sont positifs et qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
À ses côtés, ma chère Ludivine, contrairement à beaucoup de nos invités qui ont été si déstabilisés par ces lunettes de pédocriminels est-allemands qu'ils ont failli composer le 15, je sens au contraire que sa présence vous rassure.
Entre des gamins attardés, l'un qui est incapable de dire ce qu'il ressent et l'autre qui est avec ses gadgets, c'est un peu la seule figure masculine qui tient lieu d'adulte.
C'est assez bien résumé, je vous présente effectivement Alain Siroux, notre consultant ciel et espace. Bonjour Alain.
Bonjour Mathieu, bonjour Ludivine.
Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de l'Ascension de Skywalker, le dernier et ultime volet de la saga, jusqu'à ce qu'ils en pondent un autre, vous vous êtes interrogé en scientifique. Est-ce que ce qu'on voit à l'écran dans Star Wars est crédible, possible ou totalement farfelu du point de vue de la physique?
Oui, ça fait 42 ans exactement qu'on vit dans cet univers-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, et en particulier les profs de physique, se sont emparés avec les physiciens de l'univers de Star Wars pour raconter est-ce que c'est crédible ou pas. Et là, pour le compte, je dirais on s'amuse plutôt.
Les jeux sont faits. Vous connaissez le programme. Dans un instant, le jeune Padawan Mbida affrontera à main nue le sage Obi-Wan Siroux. Mais d'abord, je me tourne vers notre invité d'honneur. De gouttes d'eau sur pierre brûlante à La Vérité, qui est pour vous Ludivine Sagnier? On est allé vous poser la question dans la rue. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est pareil, la censure d'un montage bienveillant en moins.
Ludivine Sagnier.
Bonjour Ludivine.
Brune, cheveux longs, grande.
Elle est blonde?
Non, elle n'est pas blonde.
Elle n'est pas brune.
Peinerait au milieu avec des cheveux comme ça.
C'est une actrice qui a des rôles parfois un petit peu mystérieux, un peu double rôle quoi.
C'est pas quelqu'un qui joue dans des comédies, elle joue plutôt dans des films... Enfin je veux dire, Les 8 femmes, c'était un film c'est comique mais c'est aussi tragique l'histoire derrière.
Emmanuel Béard et tout ça, Catherine Deneuve et tout ça, Les 8 femmes, ouais.
Bah alors elle était super.
Ah ouais, je l'adore, je la trouve superbe, enfin, que des compliments donc.
Elle a du charme, elle a du charisme. En tout cas, quand on la regarde, elle n'est pas énervante, je veux dire, j'ai pas envie de lui donner des claques, voilà.
Elle habite aux États-Unis, bah je sais tout.
Bah je la sens heureuse de vivre et formidable.
Au revoir les divines, au bisous.
Oui, alors dans l'histoire du micro-trottrash, hein, c'est peut-être le plus soft celui-là. Hein, il est, moi, si on m'avait interviewé, j'aurais eu plus de critiques.
Non, vous
je vous le dis, j'aurais eu plus de critiques parce que moi, j'ai
mais
une critique.
Mais en quoi c'est trash là?
C'est pas du tout trash. Les gens sont. Mais en fait, on n'a pas monté, donc ça peut être trash comme ça peut être. Enfin, ça peut être sympa comme ça peut être méchant.
D'accord.
Moi, j'ai une question plus méchante, tout simplement. Ludivine, alors je veux bien que vous ayez du talent, du charisme, mais pourquoi si peu de comédie? Parce que vous êtes très drôle dans les comédies, vous en faites très peu.
C'est vrai.
Mais vous refusez les scénarios que vous recevez parce que vous les trouvez pas
non,
assez bons.
Non, c'est qu'on m'en propose peu en fait.
On pense pas à vous pour la comédie?
Non. Non, non, j'en rêve, mais là j'ai une comédie que je vais sortir cette année.
C'est vrai?
Oui.
Avec qui, vous pouvez le dire?
Je joue une animatrice de télé sur une chaîne de débat.
Ça peut être sympathique ça.
Et en plateau, j'ai Mathieu Kassovitz et Alban Ivanov.
Oh. Ah, pas mal.
Ah oui, ah, bah, ça déjà c'est du beau casting. Et Mathieu Kassovitz, Alban Ivanov, deux acteurs que j'adore mais j'aurais jamais imaginé ensemble dans une scène.
Vous allez voir, ça fait
pour un débat. Pour un débat. Ça va être bon. En tout cas, je profite de vous rencontrer, ma chère Ludivine, pour vous remercier car c'est grâce à une scène de danse assez improbable dans le film Goutte d'eau sur pierre brûlante que j'ai découvert ce tube qui a changé ma vie et en tout cas mon regard sur la pop allemande des années 70. Et vous avez vu cette scène?
Non.
exceptionnel.
Non, j'ai pas vu ce film, je le reconnais.
Eh ben, je vous invite à le découvrir rapidement. Cette chanson passe à chaque fois qu'on part en Allemagne. À chaque fois qu'on part en Allemagne, je dis on part en Allemagne et hop, Danse des Zambas, Mit Mir. Elle sera à l'affiche mercredi prochain d'un film extrêmement réussi. Mention spéciale pour les dialogues, la vérité, aux côtés entre autres de Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Ludivine Saigné passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, marre des alertes infos anxiogènes, envie de retrouver le sourire. La tendance digitale du moment, c'est les sites de bonnes nouvelles, des sites, des applis ou des comptes Instagram qui vous aident à voir la vie en rose au quotidien. Même quand tout fout le camp. Un peu comme si dans la manif d'hier, des syndicalistes de la CGT s'étaient soudain mis à chanter
« Retraite à point si ça arrive, nous laissera à peine de quoi survivre. »
Ils ont repris Clo-Clo hier dans la manif, c'est un vrai.
C'est sympa.
De la manif hier, pourquoi pas,
ouais.
C'est
gay.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Une couronne, quatre journalistes en compétition, une bonne dose de gaieté, un zeste de n'importe quoi. L'équipe est sauvage continue. Et l'équipe est sauvage, c'est aussi parfois de belles rencontres. Elle est une actrice qui fait tourner bien des têtes. Il a été élu informaticien le plus sexy du monde par GQ en 2018. Outre un physique ravageur, ils ont également en commun une voix qui donne des frissons. Quoique, pas pour les mêmes raisons. En effet, la voix de Ludivine Saigné nous donne des frissons parce qu'elle est belle.
Je peux vivre sans toi, tu sais, le seul problème.
Celle d'Anicène Bidard aussi nous donne des frissons, mais un autre type de frissons, plus Maison de l'horreur à Disneyland.
We are the champions.
Oui, c'est lui vraiment, oui. Ah bah lui au Masked Singer, on n'aurait pas eu de mal à l'identifier.
Non, c'est l'intelligence artificielle qui a manipulé ma voix, certainement, je l'avoue aujourd'hui.
Heureusement, Anissé, vous êtes bien plus doué en nouvelles technologies qu'en chant. Et ce soir, vous nous parlez d'une tendance, ma foi, qui fait du bien.
Oui, parce qu'entre les grèves, les risques de ne pas avoir de train à Noël, le Brexit, la destitution de Trump, les Balkany, bah, c'est un peu déprimant de lire.
Pour les Balkany, ça peut être drôle aussi, hein, quelque part.
Et quand ce n'est pas des infos anxiogènes, vous savez, c'est les attrape-clics. Hein, le top 50 des chirurgies esthétiques ratées.
Ah oui,
vous
c'est
ne croirez
vrai,
jamais la numéro 34, vous connaissez ces genres de sites. Alors pour nous remonter le moral, en ce moment c'est la grande tendance, c'est des sites qui ils se développent énormément de médias positifs, des sites qui veulent réensoleiller le web. Alors il y en a plein, hein, bonnenouvelledujour.fr, lesgoodnews.fr, jbdn.fr, il y a même des comptes Instagram hein, comme The Happy Broadcast, il y en a énormément. Alors de quoi ils parlent, je vous ai fait un petit florilège. Par exemple, si on part à l'étranger, une femme chef arrive au pouvoir au Malawi, elle annule 1500 mariages d'enfants, elle rend la pratique illégale et renvoie les jeunes filles à l'école.
C'est
sympa comme nouvelle. Économie, un patron verse une prime de 10 millions de dollars à ses 198 salariés.
Ça ne doit pas arriver tous les jours, pas une bonne nouvelle.
Je voudrais savoir Lagardère qui nous écoute toujours. Écoute, Arnaud, écoute ce site de bonnes nouvelles.
Social, le petit-fils de Miro met 28 tableaux de son grand-père aux enchères au profit des réfugiés.
Wow.
Des étudiants se mettent en colloque avec des seniors pour éviter leur éviter la solitude et payer moins de loyers. People, Morgan Freeman convertit un ranch de 124 hectares en sanctuaire pour sauver des abeilles. Il y en a plein comme ça.
Il fallait y penser quand même. Hein.
Ah ouais, mais c'est super sympa. Il y a plein d'infos comme ça, qui sont des vraies véritables infos, qui ont envie d'en savoir un peu plus. C'est un peu mieux que les putaclics. Il y a même la citation du jour, je l'ai prise aujourd'hui. Ouvrez des livres, ils s'ouvrent comme des boîtes de chocolat et se referment comme un coffre à bijoux. C'est sympa, hein.
C'est sympa, oui. Mais est-ce que c'est pas un peu bisounours, un peu démago, la vie n'est pas rose tout le temps, pas vivre dans le monde des bisounours.
Non, mais en même temps, on est tellement harcelé par des informations anxiogènes toute la journée. Moi, je trouve que c'est pas mal, une petite.
Mais
une
non
petite
seulement
bulle
c'est
d'oxygène.
Pas mal, mais on se dit aussi que le monde va de plus en plus mal, qu'il y a des catastrophes partout, alors que c'est pas vrai. Hein. Le monde va de mieux en mieux. On n'a jamais aussi bien vécu. La pauvreté recule, la violence recule, la malnutrition recule partout dans le monde. Il y a beaucoup moins de guerres. Il y a jamais eu aussi peu de guerres dans le monde aujourd'hui. Et partout dans le monde, il y a plein d'initiatives comme ça, très très inspirantes, des gens qui changent les choses, qui font avancer la justice, la cause sociale. Et donc, moi je me disais qu'à la veille de ce changement de décennie, on change de décennie bientôt, bah, ça vaut le coup de les mettre un petit peu en lumière plutôt que de les reléguer, vous savez, dans une petite rubrique insolite en fin de journal, là, le panda qui vient de naître, etc. Mettons un petit peu plus de positif, voyons plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide.
Si en plus vous commencez à parler à notre cœur, Anissé, je sens que vous allez marquer des points assez facilement. Ça
chanter,
me fait penser.
Je vais mettre à chanter.
Oui, comme ça vous annihilez vos chances. Ça me fait penser, je crois que c'est une anecdote vérifiée. Je ne sais plus qui nous l'avait raconté, je crois même sur cette antenne, que Keanu Reeves, l'acteur, avait offert à tous les gens qui avaient fait les effets spéciaux de Matrix. À la fin du film, il avait eu un bonus absolument énorme. Il avait déjà gagné plein de trucs sur le film, mais comme il avait un intéressement aux entrées, il a gagné des centaines de millions de dollars, ou des dizaines en tout cas, et il a reversé 1 million de dollars à chaque membre de l'équipe des effets spéciaux, parce qu'il estimait que si le film avait si bien marché dans le monde entier, c'était plus grâce aux gens des effets spéciaux qu'à cause de sa prestation. Et donc, voilà, ça c'est une info feel good aussi.
Mais ça fait tache d'huile, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de radios commencent à mettre des rubriques un peu bonnes nouvelles, télématin, mais des bonnes nouvelles. Ça s'infuse un petit peu plus, on se dit quand même, il faut arrêter un peu l'anxiogène, montrons aussi le côté positif.
Cette chronique vaudra-t-elle 3 points ? Réponse juste avant 18h. Europe 1. Autrefois, du temps béni du Herzien, le soir était pour les couples un moment fédérateur. On se glissait sous un plaid et on se mettait assez facilement d'accord sur le programme à regarder, vu qu'il y en avait 5. Aujourd'hui, avec Netflix et consorts, dans l'échelle des épreuves qu'un couple doit surmonter, rien n'est plus compliqué que le choix du programme du soir. Discussion d'abord polie qui finit souvent ainsi.
Tout va bien.
Je ne veux pas qu'on en parle.
Pour éviter ça, faites comme moi. Laissez plutôt Eva Rock choisir pour vous. Votre conseil télé-écran arrive juste après Madonna, Like a Prayer sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue les amis. Et Ludivine Saignier, saviez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, chaque couple perd en moyenne 17 minutes à s'engueuler chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix pour décider quoi regarder?
Non, je vous crois pas.
C'est vrai.
Pas 17 minutes.
17 minutes en moyenne, Netflix ou n'importe quelle plateforme à laquelle on est abonné. Vous engueulez pas vous?
Non, regardez DVD.
Vous engueulez sur le choix du DVD.
Ça existe encore.
Pour nous éviter de nous séparer à cause de Netflix, c'est paradoxalement une célibataire endurcie qui nous guide dans la jungle des programmes. Alors pourquoi une femme si sympathique et séduisante qu'Eva Rock est-elle toujours célibataire? C'est une question délicate que j'ai tenté d'aborder avec elle. Je lui ai demandé de m'expliquer sa vision de l'amour. Et à sa réponse, j'ai compris ce qui clochait. Elle a beaucoup trop regardé Arte.
Dans l'amour, ce qui m'envoûte, c'est la pluralité subjective. Même à deux, on est 6. Toi, moi, celui que je pense que tu es, celle que tu crois être moi, celle que je pense être, celui que tu voudrais être, plus tous ceux qu'on aurait pu être.
Oui, bon, Eva, bref, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Le pire, c'est que je m'entends. Depuis quelques jours, vous risquez l'overdose de deux types de programmes télé. D'abord, les téléfilms de Noël, voilà, soit une bonne dizaine par jour quand même. Mm-hmm. Et Notre-Dame de Paris, chaque chaîne a promis des images exclusives de la cathédrale depuis l'incendie du 15 avril. Alors, autant vous dire que je me suis lancée dans le visionnage du programme de France 2 de ce soir qui est intitulé Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles, avec la plus grande des réticences. Mais si je vous dis que ce documentaire a nécessité 3 ans et demi de travail, donc bien avant l'histoire de l'incendie, un budget de 3,5 millions d'euros et que j'ai regardé jusqu'au bout, d'après vous, quel est mon verdict, Mathieu Noël?
Si vous nous en parlez, vous allez faire lentement si long, c'est que forcément, ça doit être bien.
Ouais, non, c'est très bien, c'est même plus que cela, c'est original et innovant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le réalisateur Emmanuel Blanchard a choisi de raconter l'histoire de Notre-Dame à partir d'images réelles, mais surtout d'animations au graphisme qui rappelle beaucoup les jeux vidéo. Cette partie animation permet en fait de narrer en détail la construction de l'édifice et puis surtout l'histoire des bâtisseurs à travers le portrait imaginaire d'un jeune homme qui est devenu tailleur de pierre. Écoutez l'extrait d'une bande-annonce.
Aucun rêve ne semblait trop grand, ni trop beau.
C'est la Sainte Bible qu'il faut connaître au lieu de défier le Seigneur.
Ça ne tiendra jamais.
On y va !
Combien de fois il a fallu essayer, se tromper, recommencer. Combien de fois j'ai failli disparaître.
Il y a une dramatisation à la Game of Thrones.
C'est fait pour évidemment continuer à attiser l'intérêt pour l'histoire. Ludivine Saignier, est-ce que vous avez reconnu la voix de la narratrice?
Non.
C'est une comédienne française qui a débuté également au cinéma, très jeune comme vous, dans un film qui nous a tous marqués.
J'ai pas reconnu, moi.
C'est Sophie Marceau.
Ah, c'est Sophie Marceau.
Ouais, c'est Sophie Marceau. Et alors, pour la petite histoire, sachez qu'un de ses oncles, menuisier charpentier, a travaillé sur la charpente de Notre-Dame. Donc, Notre-Dame, dont vous allez découvrir tous les secrets de fabrication et l'histoire de son créateur, Maurice de Sully, qui était évêque de Paris au XIIe siècle et qui a dû faire face à l'opposition de certains chanoines pour créer cet édifice incroyable. Ça s'appelle Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles. C'est à voir sur France 2 à 21h05. Et sincèrement, vous pouvez même le regarder avec vos enfants parce que le côté animation va les intéresser.
Oui, certainement. Voilà. Mais juste, donc, Sophie Marceau a un oncle qui a vécu au 12e
siècle. Non, j'en étais sûre. Je pensais que c'était Mathieu Noël qui allait me faire la blague, lui, Ludivine Saignier. Mais non, c'est vous.
Elle est pire que moi, Eva. Vous avez trouvé ça. Ludivine Saignier, vous avez joué avec Jude Law dans la formidable série The Young Pop, diffusée sur Canal+. La nouvelle saison arrive. J'ai une question toute bête. En dépit de mon hétérosexualité avérée, ça fait quoi de jouer avec Jude Law?
Ça fait... fait tourner la tête, fait des petits papillons dans le cœur.
Voilà, il n'est pas beau que sur pellicule, quoi. Dans la vie, il envoie aussi du lourd.
Il envoie, ouais.
Et est-ce qu'il est sympathique, Jude Law? Moi, je veux toujours savoir les coulisses, parce que lui, c'est quand même une méga star internationale.
C'est un amour.
Ah, en plus.
C'est un amour.
Ouais. Oh, le salaud, il a tout pour lui. Eva?
Il a un peu tout pour lui, ouais.
À quoi il me semble que je vais
oh,
la
c'est une bonne question, ouais, ça. Elle démarre bien.
Vous avez la, je vais la refaire. Donc la série, elle évoque quand même un jeune pape qui est très rock. Hein. Vous avez avec la religion dire, ouais. une relation particulière parce que si je me trompe pas, vous êtes converti à l'âge de 15 ans, c'est ça?
Oui, oui, oui. J'ai eu une petite crise mystique au moment de l'adolescence, ouais.
Mais elle est passée.
Comme beaucoup. Oui.
Ah oui, aujourd'hui, vous n'allez pas à la messe.
Non, non, non.
Vos
ça a
enfants
ne
sont pas
ans.
Élevés dans le culte de la Sainte Trinité.
Pas du tout, malheureusement. Enfin, je leur donne un peu des petites informations, mais non, pas du tout. Je ne suis pas
Noël,
du tout
pratiquante.
Non. Ils ne savent même pas ce que c'est, je pense.
Ah ouais?
Si Noël, vaguement, mais bon.
Vous n'êtes pas à la crèche avec les petits santons, quoi.
Non, on est plus pour, comment dire, l'idée de Noël, c'est plutôt le, comment dire, le solstice.
D'hiver.
Petit commentaire, n'est-ce pas, scientifique d'Alain Giraud qui justifie son salaire.
21 décembre.
On se souvient qu'à une époque, vous avez été un peu engagé en politique, vous avez soutenu Lionel Jospin. Aujourd'hui, on ne vous voit plus dans ces soutiens-là. Vous avez décidé que la politique, finalement, ça ne servait pas grand-chose de soutenir un homme politique, en tout cas.
Non, ni une femme, d'ailleurs.
Vous en êtes revenu.
J'en suis revenu, ouais, c'est vrai.
Mais il y a encore des choses qui vous révoltent, j'imagine.
Oui, mais c'est vrai que le soutien politique, c'est pas quelque chose qui m'a comblée. Maintenant, je suis plus dans une action quotidienne, voilà, pour défendre mes convictions au jour le jour.
Merci en tout cas, Eva Rock, pour ces 17 minutes de gagner, puisque oui, Ludivine, vous l'avez appris, on perd 17 minutes chaque soir à s'engueuler devant l'écran d'accueil de Netflix. Mais pas le jour où il y aura la nouvelle série The New Pope, où là on s'engueulera pas, ouais, on pas sait ce qu'on tout. Regarde et c'est sur Canal+.
Europe 1.
À suivre, vous aimez Star Wars comme Eva, vous nourrissez même des fantasmes inavouables dans lesquels Chewbacca joue un grand rôle.
Ah ouais.
Mais quid de la science dans Star Wars? Les explications d'Obi-Wan Kenobi tiennent-elles la route du point de vue de la physique?
La force, c'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique.
Alors, c'est d'être brouf ou pas?
C'est une question?
Oui.
Oui et non. C'est une réponse normande, mais peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y a du vrai, il y a du faux.
A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, continue en présence de Ludivine Sagnier. Et vous pouvez m'enlever cette musique car l'heure est grave, ou plutôt grave l'heure est. C'est aujourd'hui que sort l'ultime épisode de Star Wars et je sens monter en moi le côté obscur du journalisme. Cette force maléfique qui m'entraîne vers le chaos. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était face à Akhenaton et Shuriken du groupe IAM. Ma bouche voulait dire IAM, mais le côté obscur a pris le contrôle de ma bouche. Et n'a pas dit IAM. Oh non, Ludivine, pas du tout. Ma première question est beaucoup plus prosaïque. Quand vous avez créé NTM en 89...
On n'a pas créé NTM, on a créé IAM. Vous l'avez enregistrée celle-là, elle est pas mal.
Oui, alors... Comme on ne peut évidemment pas mettre cette erreur sur le compte d'un manque de professionnalisme, c'est clair, c'est forcément le côté obscur de la force. Ouais. Au fait, Alain Giraud, la force, le côté obscur, la vitesse de la lumière, l'étoile de la mort, la saga Star Wars est-elle crédible d'un point de vue scientifique? C'est votre sujet du jour.
Oui, il y a... Y a
bon, okay, d'ailleurs... Bah, ça arrive à tout le monde.
Je ne comprends pas cette histoire. Non, mais,
ça a pris une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a énormément de livres qui sortent, écrits par des scientifiques sur Star Wars, sur la science de Star Wars. Et il y a des conférences. Et là, une des dernières... Je vais vous donner le titre parce que c'est vraiment très rigolo. C'est « L'empereur porte-t-il des talonnettes pour éviter de s'électrocuter avec ses propres éclairs ?» C'est très sérieux. C'est-à-dire, en fait, la plupart du temps, pour un prof de physique ou pour des gens qui enseignent la science dans les écoles, un peu partout, c'est d'être intéressant. C'est d'amuser, c'est d'interroger. En fait, c'est ça la connaissance, quoi. C'est ce qu'on est capable de déclencher quelque chose. Et Star Wars, pour le compte, il est bourré de choses. Alors évidemment, le truc le plus baltringue, si je puis dire, c'est le sabre laser.
Alors ça, c'est pas possible, parce que le laser, il peut pas s'arrêter.
D'abord, un laser, c'est une lumière cohérente, il faut qu'il s'arrête. Ensuite, ça fait pas bzzz, la lumière fait pas bzzz. Si on se battait avec Anissa avec un sabre laser, quand vous croisez la lumière, ça fait rien, je veux dire, ça s'arrête pas.
C'est Anissa, c'est pas Anissa, mettez-vous. C'est
Anissa.
Mais chez les Jedi, on m'appelle Anissa.
Donc, il y a des technologies, mais le fond du fond qui est le plus intéressant chez Star Wars pour les physiciens, c'est les questions d'énergie et de vitesse. Ouais. Je vous donne des exemples. Se balader dans la galaxie à la vitesse de la lumière. Si ça existait, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont... Bon. D'abord, on s'emmerderait beaucoup au cinéma parce qu'il faudrait attendre des centaines d'années avant de passer d'une étoile à une autre. Bon, donc c'est un peu raccourci.
Même à la vitesse de la lumière.
Ben oui, parce que l'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Traverser la galaxie, c'est 100 000 ans. Bon, 100 000 ans, c'est un peu long, quoi. Après, le fond du fond, c'est comment ça marche. C'est-à-dire, quand vous regardez l'étoile noire, par exemple, de Star Wars, qui est une espèce de forteresse absolument invraisemblable, donc les physiciens regardent ça en disant, d'abord, quelle est la taille de l'étoile noire? Comment elle a été constituée? Comment elle a été fabriquée? Puis surtout, quelle est sa source d'énergie? Parce qu'elle est capable, dit-on, de désintégrer une planète.
Une planète entière, oui, avec un gros laser.
Une planète, c'est quoi sa cohérence? Combien d'énergie il faut pour désintégrer une planète? Ça, on peut calculer ça en nombre de joules, en nombre d'énergie, avec un faisceau cohérent, etc. Et la solution trouvée par les physiciens, elle est géniale, c'est que pour alimenter cette énergie, il faut à l'intérieur de l'étoile noire un mini trou noir qui tourne très très vite sur lui-même. Parce c'est la seule chose qui ait suffisamment d'énergie pour détruire l'équivalent d'une planète. Le Soleil, à lui tout seul, n'y suffirait pas en termes d'énergie.
Le Soleil, non. Il n'y a pas assez d'énergie dans le Soleil pour détruire une planète.
Pas du tout. Donc vous comprenez qu'à partir de choses qui sont l'univers de la fiction, du rêve, etc., on a de vraies questions. Mais le plus fascinant pour moi, c'est que la science a rattrapé Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars avait inventé des planètes extrasolaires bien avant qu'on les découvre. Les exoplanètes, voilà. En 95, on les découvre.
Vous avez bossé l'émission avant de venir, parce que je n'ai jamais vu un invité qui
connaît son... J'essaie de participer.
On découvre ces premières planètes en 1995, mais Lucas les avait inventées avant. Et aujourd'hui, on est familier d'un certain nombre de planètes. Alors, les planètes qui sont des planètes océans, on sait qu'elles existent. Planètes...
La planète désert, Tatooine, ça existe désert.
Alors, Tatooine, c'est un cas à part.
Ah bon?
C'est une planète sur laquelle... autour de laquelle... Enfin, qui tourne autour de deux soleils.
Oui, ça donne des très belles images.
Assez invraisemblable.
Et ça existe ?
Et figurez-vous... Alors d'abord, ça existe. Et aujourd'hui, à l'Union Astronomique Internationale, on parle des planètes qu'on découvre autour de deux soleils, des planètes Tatooine. C'est-à-dire qu'elles ont pris le nom, finalement, de la saga Star Wars. On dit, tiens, on a découvert une Tatooine. C'est assez rigolo. Et je vais conclure par quelque chose qui va beaucoup vous amuser, c'est les grandes énigmes. Parce qu'en fait, vous avez parlé de la force. Mais c'est quoi la force ? La force, c'est une vraie question pour la cosmologie. C'est-à-dire que nous vivons dans un univers où 96% de ce qui existe est invisible et inconnu. On appelle ça énergie noire, matière sombre. On ne sait pas ce que c'est. On voit bien que l'univers est dominé par quelque chose qui ressemble à une force inconnue. Donc le mot force interroge, mais le top du top, c'est les super méchants. Parce que dans Star Wars, c'est quand même une saga où il y a des bons et des méchants. Et la question... Et c'est, est-ce que les super méchants existent dans l'univers? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des colloques scientifiques qui se réunissent régulièrement et qui interrogent ce qu'on appelle
c'est
le principe de Fermi.
C'est les alcooliques anonymes, ça s'appelle. Non, c'est pas pareil.
C'est ce qu'on appelle le principe de Fermi, c'est pourquoi sommes-nous seuls et pourquoi s'il y a des extraterrestres, ils ne sont pas encore là? Eh bien, certains pensent aujourd'hui qu'il faut faire attention à ne pas trop se signaler dans l'univers parce que...
Ah, il faudrait la jouer discrète,
quoi. Il faudrait la jouer discrète parce que s'il existe des super méchants, alors ils vont nous entendre.
On aura l'air malin avec tous nos signaux qu'on envoie.
Arriver, et donc, certains préconisent de limiter l'ampleur des communications pour ne pas être attaqué par des vilains.
Je vous remercie Alain pour cette chronique qui était fort intéressante. J'ai néanmoins une question subsidiaire. Dans Star Wars et dans beaucoup de films de science-fiction, on voit des explosions dans l'espace.
Oui.
Or, je crois que ce n'est pas possible techniquement des explosions dans l'espace, qu'on voit du feu par exemple dans l'espace.
Alors, il peut y en avoir, mais pas du tout avec ni cette vitesse, ni le bruit, ni cette intensité.
Ah oui, il n'y a pas de bruit, forcément, parce qu'on entend beaucoup de bruit dans les collisions. Merci, en tout cas, Alain Sirou. Ludivine, juste une petite question là-dessus, parce que vous êtes une actrice, vous avez joué dans beaucoup de films d'auteurs. Est-ce que vous pourrez, si on vous appelle pour vous dire, est-ce que ça te dirait de jouer dans le prochain Star Wars, c'est quelque chose que vous dites non tout de suite, ou vous réfléchissez, vous dites, tiens, pourquoi pas
Bien sûr, pourquoi pas. Mais moi, enfin, vous me dites de films d'auteur, mais j'ai quand même fait des films plus mainstream, commerciaux.
C'est vrai.
Moi, je fais plein de trucs mais différents. Vous savez, Call of Duty, c'est pas un film d'auteur.
Ça, c'est vrai. Mais Call of Duty, on vous a pas vu dans un film de science-fiction.
Non.
Ça pourrait venir.
J'adorerais.
Ah. Inception 2 avec Ludivine Salier. Je lance un appel au producteur. Ludivine est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, vos estomacs commencent à gargouiller. Réjouissez-vous. Plus qu'une simple recette de dernière minute pour épater vos proches ce soir, Délices in Extremis, c'est, grâce à l'érudition d'Olivier Pouls, une plongée dans l'histoire d'un plat. Comme la blanquette de veau l'autre jour, dont l'historique fut extrêmement précis.
Et c'est un plat traditionnel qui remonte à bien longtemps.
À tout de suite pour Secret d'Histoire Approximatif.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une chevauchée haletante sur les terres du savoir. 2 heures où l'on passe du rire aux larmes, en compagnie d'invités qui, s'adaptant au cahier des charges de l'émission, nous offrent des anecdotes où on passe aussi parfois du rire aux larmes, comme le dessinateur Gueuluc.
L'autre jour, j'ai vu Marcel Amon à la SACD. Et il a combien, 90 ans, un truc comme ça. Et je lui dis, comment ça va? Et je lui dis, comment vont tes parents?
Il dit, bon, ils sont morts.
Je pensais que ça allait le faire rire.
L'humour belge de Philippe Gueluc aujourd'hui. C'est Ludivine Saignier qui nous accompagne pour la sortie mercredi prochain de La Vérité de Koreeda, un film qu'avec Eva, on a adoré, on peut vous le dire. Alors, en hommage au titre du film, La Vérité, tentons de savoir toute la vérité vous concernant, Ludivine. Déjà, est-il vrai que vous êtes une bille en conduite ?
Non, c'est pas vrai.
Il paraît que vous n'avez pas tous vos points, en tout cas.
Ah non, j'ai pas tous mes points, mais c'est pas, ça veut pas dire que je conduis mal.
Non. Ça veut dire que les autres conduisent mal.
Non, parce que je perds mes points toujours. Ouais, toujours, c'est le tunnel de l'Alma, 53, 54 au lieu de 50. Mais maintenant, j'ai un limitateur de vitesse, ça va mieux.
C'est beaucoup
mieux.
Et
vous faites le stage de récupération des points avec Julie Depardieu ?
Ouais.
Ça, c'est
j'en ai fait deux, ouais.
Deux avec elle ?
Ouais.
Excusez-moi, vous en avez déjà fait deux quand même.
J'en ai fait trois en tout.
Et les autres participants au stage de récupération des points, quand ils pensent que c'est une caméra cachée, enfin quand ils vous voient arriver, que
ils sont fatigués parce qu'on est pas très concentré.
Est-il vrai que vous aimez faire la sieste ?
Oui, c'est vrai.
Vous êtes une grosse dormeuse.
Oui, c'est vrai.
Et est-ce que c'est vrai que c'est un des secrets de votre beauté légendaire ?
Je dois dire que franchement, j'ai pas trouvé mieux pour rafraîchir le teint.
Est-il vrai que vous allez parfois en prison ?
Oui.
Dans quel cadre ?
J'ai fait un festival de cinéma en prison pendant 3 ans. Donc j'y allais souvent, ouais. À cette époque-là, j'y allais souvent.
Est-il vrai que vous avez gagné de l'argent pour un film dans lequel vous n'avez pas joué ?
Oui, alors pas beaucoup d'argent, mais c'est vrai.
Oui, mais quand même, c'est bizarre si vous n'avez pas joué dedans.
Ouais, j'étais au générique de Le ciel, les oiseaux et ta mère, et je pense que je dois gagner, enfin j'ai dû gagner peut-être... je sais pas, en tout, sur toutes les années, peut-être 100 euros, quoi.
Mais pourquoi vous êtes au générique du film si vous n'avez pas joué dedans ?
Parce qu'à l'époque, il m'avait demandé de faire un petit truc, Jamel Ben Salah, et j'étais pas libre, donc finalement, je l'avais pas fait. Et ça devait être resté dans les...
Dans les crédits, pas,
dans les noms,
le générique était déjà écrit.
J'ai commencé par le générique.
Est-ce qu'on vous confond parfois avec une autre comédienne française ?
Tout le temps.
Mais avec qui ? Alors moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Avec qui on vous confond ?
Saigné, on m'appelle Mathilde Saigné une Mathilde fois sur deux dans les taxis.
Ben, c'est bizarre, Eva, vous
c'est pour ça que dans le métro.
En fait, j'aimerais faire comprendre au chauffeur de taxi que quand il y a 3 lettres qui diffèrent dans deux noms, ça veut dire qu'on n'est pas de la même famille.
Justement, on reste dans les noms.
Même pères. Deux, en fait.
Et ça suffit, ça ouais. suffit. Est-il vrai que vous détestez votre prénom ?
Non, je déteste rien de moi, j'ai fait une analyse, tout va bien.
Alors, Vivine, je sais qu'il est un peu tôt, mais est-ce que vous n'auriez pas comme moi un petit creux ?
Si, mais bien sûr, je crève la dalle.
Eh bien, c'est parfait, puisque la séquence qui suit va nous ravir. Europe 1. À suivre, justement, ma chère Ludivine, vous avez, je sais, tourné avec lui. Il était un formidable bon vivant, avec des goûts simples.
Il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais, la blanquette de veau, le roquefort, la frangipane.
Pourtant, en termes de gourmandise, Jean-Pierre Mariel était un petit joueur comparé à Olivier Pouls, dont le rire, que je qualifierais de gourmando salace, vous entra longtemps. Delice in extremis, c'est juste après Stéphane Echer, si tu veux que je chante sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui peut aborder des thèmes variés allant du cinéma d'auteur au CAC 40 en passant par les paupiètes de veau. Et justement, sous le regard de Ludivine Saignier, notre invité s'installe à présent en studio un homme qui est à l'hédonisme ce que le pape est aux catholiques. À la mode des Buddha Bowls aux graines de chia sur base de quinoa bioéquitable, il répond gencive de porc à l'ardéchoise. Il a arrêté le sport en 1987 après un stupide accident de badminton.
85.
S'il continue à ce rythme, bientôt...
On aura du mal à distinguer l'avant et l'arrière.
Non, je n'en suis à Nice. Non, vous allez trop loin, Nice. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, enfin je sais même pas si je vous dis bonjour. Toi. Salut Mathieu.
Alors oui, on continue de préparer déjà le réveillon de Noël avec vous. Hier, c'était le foie gras. Oui. Aujourd'hui, forcément...
Bah, la volaille.
La volaille.
Et alors, est-ce que vous savez pourquoi on mange de la dinde traditionnellement à Noël ?
Aucune idée.
Non.
Alors c'est une tradition qui ne remonte pas si longtemps que ça, ça remonte au XVIe siècle exactement.
Tout de même.
Et pourquoi n'en mangeions-nous pas avant ? Toujours pas l'idée ?
Non.
Eh bien parce qu'il n'y en avait pas.
Comment ça il n'y en avait pas ?
Je n'osais pas le dire parce que je me suis dit je vais passer pour la
dinde a été ramenée Christophe
Colomb. Comme les pommes
de terre ? Exactement, elle a été ramenée par Christophe Colomb. Ce n'était pas un animal, un volatile qu'on trouvait en Europe. Et d'ailleurs, pourquoi elle s'appelle...
La poule au pot.
Ah, ben la poule, oui, mais pas la dinde.
D'accord.
La poule, oui, là, ça, okay. La poule, on la connaît
bien
longtemps.
Je me suis bien ridiculisé, là.
Parce qu'avant le XVIe siècle, en fait, à Noël, on mangeait de l'oie. Et comme cette dinde est arrivée et que c'était un animal plus exotique et plus fascinant, elle s'est petit à petit imposée sur les tables.
L'époque où la dinde était un animal exotique et fascinant.
Bah oui, exactement. Elle s'appelle dinde, pourquoi d'ailleurs?
Mais alors, on apprend tellement avec vous, Olivier, je ne sais pas.
Et bien pourquoi? Parce que Christophe Colomb, quand il est arrivé en Amérique, il croyait qu'il était où?
Aux Indes.
Et ben, il croyait qu'il était aux Indes.
Mais non.
Donc il a dit, c'est une poule d'Inde. Et
non,
du coup,
vous,
ça s'appelle
une
dinde. Non, c'est tout à fait vrai. Alors c'est vrai que la dinde...
Et aux États-Unis, elle vient de Turquie, en fait.
Bien joué, Annie, c'est joli.
Alors, à mon avis, n'a pas été une très bonne idée de remplacer l'oie par la dinde, parce que l'oie, c'est franchement bien meilleur. La dinde, c'est quand même un peu sec. C'est pas terrible, la dinde. Il vaut mieux manger un chapon, il vaut mieux manger une poularde, il vaut mieux manger une oie, mais surtout, il vaut mieux bien la cuire. Parce
Parce que souvent, c'est sec.
Alors, je vais vous donner deux trucs
infaillibles.
Et vous
n'avez pas demandé à Ludivine au préalable
si elle était végétarienne ou pas. J'ai dû vous poser la question.
Oui, je ne le suis pas.
Ah, bonne nouvelle. Ma recette tient encore la route.
Il était trop tard pour faire machine arrière.
Prends soin de choix.
Moi, je rarement de la dinde à Noël. Mais
toute la difficulté, en fait, dans la cuisson de la volaille, c'est de la garder moelleuse. Et c'est d'avoir le blanc qui est cuit et les cuisses aussi en même temps. Et pas le blanc sec et les cuisses cuites ou l'inverse.
Comment faire?
Alors, comment faire? Tout d'abord, une petite astuce, votre volaille, quelle qu'elle soit, vous allez la laisser dans votre frigo pendant 2 jours de manière à sécher l'extérieur, à sécher sa peau. Ça permettra d'avoir une peau bien plus croustillante. Donc vous la laissez simplement poser sur un plat dans votre réfrigérateur sans la recouvrir. Première opération. Deuxième opération, la cuisson. On la cuit au four. On la cuit dans la partie haute du four en démarrant à four froid et en retournant l'animal. On a tendance à cuire la volaille en mettant les blancs vers le haut. Et c'est une erreur. Il faut mettre les blancs vers le bas. Parce que la chaleur est... Surtout quand on est en haut du four, la chaleur va être plus proche.
Sauf si on a mis chaleur tournante.
Alors même si on a mis chaleur tournante, en général, il y a effectivement un tout petit peu plus de chaleur vers le haut. Donc on la retourne.
Nantis à cette table.
Mais non, c'est juste que c'est ma seule question, Lydie. En fait, je suis tellement nul en cuisine qu'à chaque fois, je lui dis, mais chaleur tournante.
Surtout parce qu'il a un très beau four à chaleur tournante.
D'accord. Oui, c'est vrai.
Double, et donc voilà, double une fois que vous avez respecté ces deux principes, vous aurez l'assurance d'avoir une volaille croustillante à l'extérieur et
moelleuse à l'intérieur.
Voilà, parfaitement cuite avec des blancs qui ne seront pas trop secs.
Merci beaucoup Olivier Pouls et en plus merci pour cette histoire. On a appris que la dinde était arrivée seulement au XVIe siècle avec Christophe Colomb.
Absolument.
Et surtout, j'ai bien aimé votre interprétation de Christophe Colomb découvrant la poule et s'exclamant « Oh, une poule d'Inde !» Bravo Olivier Pouls, en route vers les Césars. Olivier qu'on retrouve tous les samedis à 11h dans la table des bons vivants de Laure Mariotte.
Europe 1.
Les amis, le dénouement est proche. Qui aura la chance de repartir la tête haute en hurlant dans l'open space?
Oh putain, génial! Merci! Formidable! Merci beaucoup, I love you!
Qui, au contraire, s'effondrera en pleurs dans les sanitaires avant de s'exclamer?
Quand il passe sur moi l'année prochaine pour la compète, c'est terminé, fini ça!
A tout de suite pour le verdict!
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Le moment de vous dire adieu arrive. Ludivine Sagnier était notre invitée. Et comme c'est une immense actrice, elle va maintenant vous dire ce qu'elle a pensé de ces 2 heures.
Quand on est embarqué dans cette famille, on a l'impression d'être chez soi et d'être en chaussons et que tout roule, quoi.
Ça sent l'Oscar pour nous. Magnifique interprétation. Trêve de compliments. L'heure est venue de découvrir qui a été désigné chroniqueur du jour. Quel sujet vous aura le plus intéressé? La science dans Star Wars? Les sites de bonnes nouvelles? L'intelligence artificielle au secours de Beethoven? Ou encore les chiffres records du CAC 40 alors que le pays est en grève? C'est le quitte ou double. Axel de Tarlé, pourquoi Ludivine Sagnier devrait voter pour vous?
Parce que le CAC 40, c'est un sujet pas facile, mais qui permet d'arrondir sa galette quand on a un petit peu d'économie à placer.
Pourquoi pas? Vous faites vibrer notre corps mercantiliste, pourquoi pas?
Le portefeuille.
Thierry Geffretin, pourquoi voter pour vous?
Parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle à propos de Beethoven, mais que Ludivine est extrêmement humaine, et donc elle va, je pense, craquer pour l'aspect humain de Beethoven.
Il est tout rouge. Alain Siron,
comme
pourquoi
d'habitude.
Voter pour vous?
Moi, par curiosité.
C'est tout.
Oui.
Tu t'es pas foulé, mon grand Jean.
Mais...
Anissa Mbida, pourquoi voter pour vous?
Mais parce que j'essaie d'apporter des bonnes nouvelles en cette fin d'année, en ce début de siècle. J'espère que le siècle, début de décennie, que la prochaine sera pleine de bonnes nouvelles,
oui,
pour Ludivine.
Interdiction de faire votre regard de lover à Ludivine Sagnier.
Ne me regarde pas, de toute façon.
Dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ça a été hyper serré, c'est entre
vrai.
Alain Sirou et Anissé.
Et donc, qui l'emporte?
Anissé.
C'est Anissé qui l'emporte pour les bonnes nouvelles. Très bien. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. J'hésite vraiment. Là, vraiment, je suis écartelé entre 4 journalistes de talent. Je vais donner mon point aujourd'hui, comme je l'ai regardé et qui croit que c'est lui qui va avoir le point. Je vais donner mon point à Thierry Geffretin.
Oh, c'est pas sympa.
Mais vous le savez ici, et oui, c'est l'invité qui a la lourde tâche de trancher. Ludivine Saigné, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Alors, je dois donner mon verdict maintenant?
Maintenant.
Écoutez, je vais récompenser un journaliste qui parlait d'un sujet qui ne m'intéressait pas à la base et qui a fini par m'intéresser énormément, puisque ça a ouvert sur la science, le cosmos, etc. C'est Alain Sirou.
Alain Magic Sirou remporte une fois de plus l'équipe est sauvage, 55, 56, 57, 58. Vous êtes deuxième du classement général, Alain Sirou, vous remontez.
J'ai beaucoup hésité. Hein.
Oh, c'est gentil. C'est gentil pour
avec
eux. Axel, éloignez-vous un petit peu de Ludivine. C'était la 82e journée de l'équipe Les Sauvages. On remercie notre invité Ludivine Saigné à l'affiche mercredi prochain de La Vérité avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Et bientôt, on le disait, la saison 2 de The Young Pop, de New Pop sur Canal+.
Et ce soir dans Burger Quiz avec notre ami Jérôme Commandeur.
Encore un beau moment en perspective. Merci également à tous mes journalistes, Eva Rock, Alain Sirou, Axel de Tarlet, Thierry Géfrotin, Anissé Mbida. L'équipe est sauvage revient demain 16h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.